Bonjour. Françoise Tressart et la belle équipe en piste pour un numéro spécial enregistré en public. Les papous entre deux ponts. Depuis la rentrée de septembre, nous vous retrouvons pour une grande soirée de jeux papous enregistrée au studio 105 de la Maison de la Radio, un studio chaleureux qui se prête bien à nos jeux et joutes littéraires. On s'y sent bien, comme chez nous. Et cette année, entre le pont du 1er mai et le pont du 8, vous aviez rendez-vous avec nous le vendredi 5 mai, deux jours avant les élections, pour les papous entre deux ponts, l'occasion pour nous de jouer avec les ponts au sens propre et au sens figuré. Infinie possibilité du pont et de ses dérives. Alors la salle était pleine à craquer, c'est toujours une joie sans pareil de vous entendre rire, applaudir, participer. Une soirée à écouter en deux dimanches et demi. Et oui, nous sommes restés 2h40 sur la scène du 105 avec Sophie Divry, Lucas Fournier, Patrice Minet, Eva Almassy, Jacques Vallée, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Jeanne Carillon, Jean-Bernard Pouy et Gabriel Godard pour accompagner nos jeux au piano. Pour retrouver les émotions du 5 mai et les conserver précieusement dans vos collections de papous en public, direction franceculture.fr pour le podcast. C'est facile et gratuit. Les photos de la soirée prises par Marie Dalquier sur notre page Facebook et à la page des papous du jour. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois une émission que vous pouvez écouter normalement comme d'habitude ou en mettant un casque sur vos oreilles pour profiter du son binaural. Vous aurez l'impression d'être assis dans la salle ou avec nous sur la scène. Vous entendrez certaines voix derrière votre tête ou côté oreille droite, côté oreille gauche devant vous. C'est la magie de la prise de son binaural mitonnée par Bernard Laniel. Les papous entre deux ponts, première partie. Et pour l'ouverture programme, place à Jeanne Carillon avec Gabriel Godard sur un air de Lully, une chanson sur une musique baroque.
Que devant vous l'émission soit plaisante, que les papous remplissent leur devoir de titiller une envie bien pressante de se poêler, de se fendre la puir. Rien n'est si beau que de voir ensemble tout le public radiné devant nous. Que l'on bénisse les jeux propices qui font la nique façon homophonique. Heureuse que je suis d'ouvrir cette émission. Une fouée n'est pas coutume et toujours une chanson. Attention, la textée sera improvisée et en live les bouts rimés. Que la puissance des papous déchire tout devant vous. Eva Almassy, Hervé Le Tellier, Sophie Divry, Patrice Minet, Jacques Jouette, Lucas Fournier, JB Puis, Jacques Valette, de vrais dingos, du ciboulot, de la propo pour ses beaux zigotos. Et en musique, la belle équipe, accompagnée par Gabriel Godard. Et en musique, Lully c'est chic, de l'émission, on vous donne le départ.
Un premier jeu en forme d'échange de lettres entre trois drôles d'épistoliers À ma droite, Lucas Fournier, à ses côtés, Jacques Jouet, et puis le fameux Hervé Le Tellier. Un échange de lettres où l'on découvrira que parfois, l'amour tient à un pont. Lucas Fournier, vous seriez qui ?
Roméo.
Non.
Enfin, le Roméo.
Le jeune homme de 15 ans, fringant, magnifique.
C'est surtout Juliette qui a 15 ans, moi j'ai 16 ans et demi.
Oui, bon... D'accord. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un problème ?
Oui, je suis donc Roméo Montaigu et j'écris à mon père, le patriarche Montaigu, oui. Maison Montaigu, à Vérone.
Et ce sera Hervé Le Tellier, oui. C'est ça ? Papa.
Papa. Papa. Vérone, le 23 mai 1507. Papa, mon héros au sourire si doux. Ah, qu'il est bon pour un cœur affligé de pouvoir écrire ces deux consolantes syllabes. P.A. P.A. Papa. C'est un fils dévasté qui se jette à tes genoux bienveillants. Papa, autant que tu le saches, j'ai rompu les ponts avec Juliette.
Non.
Juliette Capulet, Juliette Capulet. Tous les matins, en me rasant, je me répète ces mots devant ma glace. Et c'est bon. Juliette Capulet, Roméo Montaigu, Juliette Capulet, Roméo Montaigu. Quand je dis, enfin, on a rompu les ponts, j'exagère. On n'en a rompu qu'un seul de pont, le Ponte Nuevo del Popolo. Alors, il est tellement rompu qu'il est à l'eau, hein. Dans l'eau, sous l'eau même. Papa, c'est tout bête. L'autre soir, nous sortons dans le songe d'une nuit d'été vespérale sur le Ponte Nuevo, juste en face de la maison des Capulet. Et là, je propose à Juliette de fixer l'anneau nuptial qui nous unit à un cadenas métallique attaché au pont. Ouais, je sais, papa, tous les crétins font ça. Mais pour attraper la pucelle véronaise, le coup du cadenas sur le pont, on n'a pas trouvé mieux. Bref, j'accroche à la grille du pont ce cadenas rutilant, parmi les 150 000 déjà suspendus, comme pour sceller notre amour éternel. Juliette était en transe, j'étais sur le point de conclure, clic-clac a fait le cadenas, et crac-crac a répondu le pont, qui a commencé à vaciller, à branler, à s'affaisser, comme si les quelques grammes de mon cadenas à moi, lourd de mon amour quotidien, étaient de trop. Juliette est tombée dans la dige, totale. Le pont est détruit sous l'eau, le cadenas et la bague sont au fond de la dige et on ne peut même plus accéder à la maison des Capulet. Alors les Capulet, parlons-en, tu les connais. Dès qu'on peut ranimer la colère des guelfes et des gibelins et faire beaucoup de bruit pour rien, ils sont partants. Si le vieux Capulet apprend que je suis responsable de ce désastre, il est capable de marier sa fille au premier marchand de Venise venu. Et si j'essaye d'entamer des pourparlers avec lui, je crains le pire. J'ai vu ce qui était arrivé en Espagne avec mon cousin Rodrigue. S'embrouillons avec son futur beau-père pour une peccadille. Je ne suis pas partisan de l'extinction du beau-périsme, non. Et je n'ai pas envie que tout ça finisse dans le sang et les larmes. Surtout, je ne suis pas sûr que ma Juliette serait aussi cool que Chimène. Papa, toi qui fus la même vertu, la vaillance et l'honneur de ton temps, toi qui n'es que trop blanchi dans des travaux guerriers, tu pourrais pas régler ça directement avec papy Capulet, enfin... Toi, papa, et lui, mon futur beau-papa, vous êtes tous deux gentilhommes à Vérone. Le gentleman à Grimande, ça vous connaît. Bref, à qui venge son fils, il n'est rien d'impossible. L'histoire de Roméo et Juliette, je te la confie, papa. Ton Roméo, un petit PS, on me dit qu'à Florence, il y a un type très bon pour les ponts, la société Vinci.
Alors, c'est une jolie lettre oui. Que vous recevez, papa, oui. Hervé Le Tellier. Comment est-ce que vous allez arranger les choses ?
Je vais faire le nécessaire, d'ailleurs je le fais. Ouais. Et j'écris à Umberto Capulet.
Et Umberto Capulet, ce sera Jacques Jouet.
Oui. Cher Umberto Capulet, cher ami, je suis en ce moment avec mon ami Léonard, de la Société Vinci, qui m'a appris à fabriquer des lettres volantes en pliant des feuilles de papier. Lettres volantes qu'il appelle d'ailleurs des missives planes. Et c'est la 118e que je vous envoie. Et oui, car elle vole au-dessus de la digue et les 117 premières sont tombées à l'eau. Je les vois en ce moment qui flottent devant nous. Mais notre technique s'améliore sans cesse. Et d'ailleurs, si vous êtes en train de lire cette lettre, c'est que notre missivoplane est enfin au point. Bon, en temps normal, juste frapper à votre porte. Mais là, j'en suis réduit à viser votre fenêtre ouverte au deuxième étage. Mais si vous me lisez, vous le savez déjà, puisque ces mots ont dû planer devant vous pour se poser délicatement sur le plancher, à moins qu'évidemment le missivoplane ait poursuivi son vol pour vous atteindre à l'œil. Mais mon Dieu, quelle horreur, ça serait trop de malchance, prions que non. Bref, au fait, ne sortez pas de chez vous. Vous n'avez plus de pont. Vous tomberiez directement dans la dige où flottent, comme je vous l'ai dit, mes 117 premières missivoplanes. J'ignore tout à fait comment ce pont s'est effondré. Le temps, ses ravages, l'érosion, les crues, les décrues, que sais-je. Je ne sais plus d'ailleurs très bien ce que je voulais vous écrire. Dans les 100 premières lettres, c'était un peu plus précis, mais là maintenant les heures ont passé et j'ai totalement fini par oublier mon but premier. Il était question de mon fils, de votre fille, mais alors de quoi, je ne sais plus. En tout cas, le missivoplane est au point, évidemment, si vous lisez cette lettre. Alors donc voici ma proposition. Associons-nous dans l'envoi de lettres volantes VMC Airlines, Vinci Montaigu Capulet Airlines, pour ouvrir une voie nouvelle dans le transport aérien. Je suis d'un enthousiasme rare. Recevez mes plus volantes salutations. Votre ami, Giuseppe Montaigu. APS, demandez à votre fille pour son histoire avec mon fils. Je ne sais plus de quoi il est question, ça me sort de l'esprit. PPS, Verona Airlines. C'est pas mal non plus.
Alors, Mr. Jacques Jouet reçoit cette missive ou pas ?
Oui, je la reçois. Elle n'est pas très claire, mais je la reçois quand même, oui.
Très bien, tant mieux.
Et j'y réponds immédiatement.
Tant mieux.
Mon cher Montaigu, je réponds à Montaigu.
D'accord.
Je reçois enfin une lettre de vous depuis le temps. Que ne vous êtes-vous réveillé plus tôt ? Vous n'ignorez pas, je pense, que tous nos efforts conjoints pour unir enfin nos deux familles traditionnellement hostiles par le mariage prochain de ma chipie de Juliette et de votre ruffian de Roméo sont périodiquement entravés par les premiers intéressés qui se haïssent cordialement. Ne me dites pas que je vous apprends quelque chose. Ce sont eux, pour une fois d'accord, qui ont manigancé cette histoire de cadenas dont le poids a fait déborder le vase du pont sur la Dige. Ils attigent vraiment. Roméo ne veut pas de Juliette, Juliette ne veut pas de Roméo, Juliette dit que Roméo sent le bouc, Roméo dit que Juliette chante comme une chèvre, Juliette veut épouser un fils bouvard. Vous voyez d'ici le faire part, Bouvard et Capulet, non. Marions-les, marions-les. Et voilà que, ignorant de cette gabegie, vous me proposez, pour refaire le lien entre nos deux familles, de traverser la Dige en volant. Mais c'est impossible. Ne lâchez pas la proie Capulet pour l'ombre de Vinci, Montaigu. Et si c'est impossible, c'est que je ne peux plus m'engager sur un accord commercial bilatéral aérien pour la raison que tous les fonds dont je dispose sont immobilisés dans la compagnie du tunnel sous la Dige, dont le creusement est en passe d'arriver à son terme. Il reste encore une petite centaine d'actions à 1000 florins l'unité où je serais très heureux de vous voir acquérir, vous, plutôt que le premier marchand de tissus venu. Quant à nos diables d'enfants, obligeons-les à s'aimer, Montaigu, même si votre Roméo ne deviendra jamais haute contre, Montaigu.
Oh. Ah, un trait suffisant.
Faute de quoi ? Il risque de devenir... Roméo et Juliette, pour la postérité à nos corps défendants, la référence absolue de la haine entre les sexes.
Alors, c'est toujours assez culturel, les papous dans la tête, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes sur France Culture. Et ce sont les papous entre deux ponts. Et aux papous entre deux ponts, on va jouer... sur place. Vous voyez, il y a des tables de travail derrière qui seront occupées par quelques papous qui vont écrire. Alors, dans la salle, Lucas Fournier, s'il vous plaît, Jeanne Carillon, chacun avec un micro HF. Ils vont vous demander des mots. J'espère que vous êtes venus avec des mots, des bons mots, des mots qui nous permettront à nous et à vous aussi, d'ailleurs, de trouver d'autres mots qui rimeront avec eux. Pour que Hervé Le Tellier, Sophie Divry et Jacques Jouet écrivent chacun un poème devant vous avec ces mots. Alors il faut des mots qui font image, des mots qui déclenchent l'imagination. Et je précise que j'ai demandé à Jacques Jouet pour ce jeu de faire un poème en chanson. Alors il a répété cet après-midi avec Gabriel Godard et une chanson, une vraie chanson avec les paroles de la vraie chanson qui est Jacques Jouet.
C'est la chanson de Jacques Brel, la chanson des vieux maris, non, les vieux maris ou les vieux amants, je sais
pas. Les vieux amants, c'est ça. Qui dit quoi ? C'est comment déjà le début ?
On est bien
dans les déjà oublié. Bien sûr, nous sommes des orages.
Oui. Si il chante, mais mon amour, mon merveilleux amour.
C'est une chanson un peu grave qu'il va essayer de réécrire en une petite demi-heure.
Je n'ai pas encore écrit les paroles.
Avec les mots que vous allez lui donner, leur donner à la rime. Alors, Bon, vous avez le droit tous les trois de refuser des mots, je ne sais pas combien, soyons généreux, autant que vous voudrez. Alors, qui a des mots, des bons mots?
Cornegidouille.
Ah. Cornegidouille, oui, Cornegidouille, non, mais pensez à Jacques Jouy qui fait une chanson quand même. Cornegigouille, bien sûr, nous une des cornes.
Après, il y a des rimes en ouille.
Ouais, c'est dangereux.
Candidouette.
Candidat, vous en avez
oui,
pas.
Candidat.
C'est bien, on est entre deux
points. Il faut des rimes féminines aussi, s'il vous plaît.
Alors oui, on demande des rimes féminines. Vous prenez candidat ou candidate?
Candidat.
Allez, candidat. Alors, un mot, une rime à candidat.
Date.
Candidat.
Il n'a rien compris.
Je ne sais pas, non. Moi qui ai fait tellement de candidats Derrida. Sur vous. Eva
Derrida.
Dalida. Ah, c'est pas non. mal.
Ah, Dalida ou Derrida.
Ah, moi j'ai entendu Dalida, je trouvais que c'était bien, non? Candidat Dalida pour une chanson chaque jour.
Très bien, Dalida.
Allez, candidat Dalida.
Ah oui, ça c'est.
Après.
Sylviculture.
Ah ouais.
Pas emballé. Hein.
Oui.
Hurluberlu.
Hurluberlu, c'est mignon, Hurluberlu.
Parfait.
Vous prenez?
Oui.
Sophie?
Oui, oui.
Hurluberlu. Alors, un mot qui rime avec Hurluberlu, miné?
Avec Hurluberlu?
Berlu?
Merlu.
Non, c'est féminin. C'est
Merlu.
Féminin. Pardon?
Merlu.
Merlu?
Poilu.
Poilu, c'est mieux.
Jacques Jouet, poilu, ça vous va?
Ça me va, poilu.
Allez. Troisième
Pirouette.
Mot. Pardon.
Pirouette. Une rime féminine.
Pirouette. Non.
Mouette. Allez, mouette.
Pirouette, mouette.
Monsieur.
Rapine. Rime féminine.
Rapine.
Rapine.
Rapine. Vous prenez rapine qui rime avec.
Rapine.
Non, on prend rapine ou pas?
Oui.
Tu trouves une rime correcte, oui.
Copine.
Rapine, copine.
Copine, allez, bravo, Jacques Babi.
Chauve-souris. Ah oui, chauve-souris, oui.
Oui, c'est pas mal.
Chauve-souris,
ça.
Très bien, avec.
Mi-souris.
Ah oui, très
oh, c'est bien. Oh, c'est très, très bien, adage. Ça, bravo. Adage.
Sondage.
Je sais pas. Adage, jouez, exprimez-vous.
Adage, c'est bien, oui.
Bagage.
Pomme d'api.
Ah non, mais attendez, on en est encore à la rime à adage.
Ah non, non, c'est pas mal.
Bagage. Bandage, c'est pas mal, non?
Romage, c'est bien.
Ça a été fait. Adage, bagage.
Voilà, merci.
Ça a été fait.
Bon, alors c'est fini avec adage, bagage. On a ce qu'il faut.
Pomme d'api.
Ah bah oui, revoilà la pomme d'api.
Non, mais toujours
non,
pas.
Mais faut, oui.
Non, mais toujours pas la pomme d'api.
Toujours pas. Bon, on s'est refusé bon. Pour
c'est
pomme d'api. Pardon, vous avez une deuxième chance.
Cellophane.
Et un nom de personne.
Cellophane.
C'est bien qu'il y ait une.
Madame Cellophane.
Non, c'est bien qu'il y ait un personnage. Marcel.
Marcel.
Marcel. C'est bien au féminin ou au masculin?
Cellophane, non.
Ah, Marcel au féminin, Marcel. Vous voulez?
Oui, très ouais. bien.
C'est une réticelle.
Marcel avec quoi?
Escarcelle.
C'est bien. Chansons, là, hein.
Une parcelle.
Une selle de cheval.
Une selle de cheval. Marcel.
Crécelle. Moi, je préfère Crécelle.
Crécelle, oui.
Crécelle. Allez, on prend Crécelle.
Toujours pour une chanson. Ça anticipe un peu l'état dans lequel il va chanter.
Balourd.
Balourd, c'est pas mal, ça,
Balourd. Balourd, c'est bien, ça. Balourd, c'est bien.
Bon, c'est masculin, comme on aime.
Toujours.
Amour.
Velours.
Amour.
Ou amour.
Non, pas amour.
Velours. Pas amour.
Non,
pas amour.
Velours, c'était bien.
Velours.
Balourd, bien. Velours.
Velours. Hein.
Velours. Non, velours, c'est très bien, quelqu'un
oui,
a dit. Velours, c'est très bien. Bah
oui,
c'est bien,
oui,
bah,
on
bah, évidemment.
Paupières.
Alors, 10.
Paupières.
Paupières.
Paupières. Soupières. Non.
Guépière.
Alors, qu'est-ce que vous voulez. Non, alors vous proposez quoi si c'est. Ah non.
Jean-Pierre.
C'est pas mal, ça vous plaît,
Jean-Pierre,
Jean-Pierre.
Jean-Pierre,
oui. Jean-Pierre, oui.
Alors, paupières, Jean-Pierre.
Cauchemar.
C'est le dernier mot, alors.
Calamar.
Quoi, connard?
Calamar.
Ah, calamar, pardon, j'ai compris.
Ça marche pas comme rime, un cauchemar.
Tintamar.
Ah, plumard, c'est pas mal, plumard.
Plumard.
Non, on a non, déjà des rimoires.
Cauchemar et plumar, ça va trop ensemble déjà.
Voilà, cauchemar calamar.
Voilà.
Cauchemar calamar.
Ouais, oui.
Bon, ça plaît à Jacques Jouy pour sa future chanson, mais est-ce que ça plaît à Sophie Divry?
Oui, qu'à la mort, ça sert toujours.
Et à Hervé?
Oui, c'est parfait. Un cauchemar, ça sert toujours aussi.
Alors, je relis, vous vérifiez que vous avez tout noté. Hein. Candidat Dalida, hurluberlu, poilu, pirouette, mouette, rapine, copine, chauve-souris, mi-souris, adage, bagage, Marcel, crécelle, Marcel au féminin, bien sûr, balourd, velours, paupière, Jean-Pierre, cauchemar, calamar. Voilà. Alors, vous allez travailler, vous avez une demi-heure, le temps que nous jouions à expert contre faussaire. Tout le monde en place. Alors, bon, c'est un jeu que vous connaissez, expert contre faussaire. Vous vous doutez que, étant donné le thème de ce dimanche papou, les papous entre deux ponts, il y aura un pont ou deux ou trois, quelque part, dans l'histoire, je précise. Et donc, cette histoire, ce roman, il a été choisi par Eva Almassi, qui a choisi un roman assez connu, d'un auteur très, très, très connu, qu'on a tous lu, je pense, au moins quand on avait 14-15 ans. Donc, Eva a fait le choix. Non, Eva a fait le choix. Nous nous sommes réunis, Eva et les futurs faussaires, Jeanne Carillon, Jacques Vallée, Lucas Fournier. Eva a raconté, a situé le début et la fin du, non pas du roman, mais d'un chapitre du roman, ce qui est peut-être plus difficile. Et sur le champ, Lucas Fournier, Jeanne Carillon et Jacques Vallée en ont écrit le début et la fin, c'est-à-dire quelques lignes, 4-5 lignes à chaque fois, ce qui n'est pas facile. Et ils avaient un temps de 30-40 minutes, parce que c'était extrêmement difficile. Et puis, nous avons ce soir deux fringants experts, Patrice Minet, qui pour l'occasion a relevé ses lunettes, parce qu'il entend mieux quand il a pas ses lunettes.
Pas aperçu.
Et Jean-Bernard Pouy, qui vont tout découvrir en même temps que vous, parce que nous quatre, on sait très bien où on va, on sait de quoi il va être question. Le but du jeu, pour eux, étant d'identifier le vrai texte parmi les faux, c'est-à-dire parmi les pastiches, et d'essayer d'attribuer à chacun ce qu'il a écrit. Si vous écoutez l'émission, vous savez que souvent on se trompe, mais on se trompe avec les honneurs parfois et en argumentant très bien avec des arguments littéraires. Donc c'est ce que nous attendons de vous, Jean-Bernard Pouy et Patrice Aimé.
Aucun souci.
Alors Eva Almassi, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un chapitre de La Reine Margot d'Alexandre Dumas. Alors, au début, ne notez rien. Je ne vais pas raconter le livre. Hein. Juste vous rappeler quelques personnages pour vous situer l'histoire. Il y a Marguerite de Valois, Margot pour les intimes, qui ressemble soit à Jeanne Moreau, soit à Isabelle Adjani, selon vos souvenirs de cinéma. Son mari, Henri de Navarre, futur Henri IV. Sa mère, Catherine de Médicis, on la connaît, c'est la pire méchante, une empoisonneuse. Alors, maintenant, dressez l'oreille. Un premier gentilhomme, le comte de la Mole, amoureux de la reine Margot, qui le lui rend bien. Un deuxième gentilhomme, Hannibal de Coconas, qui deviendra le meilleur ami de la Mole. Mais ça commence très mal. L'un est protestant, l'autre est catholique. On est la nuit de la Saint-Barthélemy. Ils s'entretuent d'abord, mais ensuite ils guérissent, ils se réconcilient et ils mangent tout le temps des omelettes au lard ensemble. Jamais dans l'histoire de la littérature on n'a mangé autant d'omelettes au lard que dans ce livre. Mais comme on ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs, à la fin, ils finiront ensemble sur l'échafaud. Notre chapitre, alors là, prenez vos stylos, se situe à peu près au premier tiers des 700 pages du roman. On est la nuit tombée sur le pont Saint-Michel, qui, comme tous les ponts de Paris à l'époque, ressemble au Ponte Vecchio de Florence, avec des échoppes, des boutiques, des maisons bâties là-dessus. La Mole et Coconas frappent à la porte d'un parfumeur pour lui demander comment renforcer leur chance en amour. Le sinistre bonhomme remet à la Mole une figurine de cire avec manteau et couronne qui ressemble à la reine Margot. Celle-ci apparaît comme par enchantement en compagnie de son amie Henriette. Donc vous avez la mort coconasse.
N'écrivez pas, n'écrivez pas rien.
À la recherche de produits de beauté, les garçons leur avouent leur amour à genoux. Quand la serrure se met à grincer, c'est Catherine de Médicis qui a sa propre clé pour entrer chez son fabricant de poison la nuit comme de jour. Sa venue inopinée fait fuir comme une bande d'oiseaux tout ce petit monde des amoureux. Et maintenant, je vais vous situer le début et la fin du chapitre.
Ah, ça c'est bon.
D'abord, soyons logiques. D'abord le début. Oui. Le narrateur s'adresse à ses lecteurs et leur rappelle tous les moyens qui existaient à l'époque où se situe son histoire pour passer à Paris d'une rive de la Seine à l'autre. La fin. Les deux couples de jeunes amoureux prennent la fuite par un escalier, ce qu'ils font de manière plutôt primesautière et charmante, voire un peu cucu.
C'est bien.
Et je n'arrête pas les indications stylistiques pour vous aider. Mais je cite la remarque d'une critique contemporaine sur le style. Donc, La Reine Margot, je cite, est un roman de psychologie superficielle et de style faible qui manque de souffle poétique. Si Stendhal est un grand artiste, Dumas n'est lui qu'un habile homme de lettres. Alors, les experts, surtout, ne vous y trompez pas, il faut choisir Dumas et pas Stendhal.
Oh. Et ne vous trompez pas non plus dans la salle parce que je vous demanderai votre avis.
Mais j'ai pas bien compris.
Il faut pas que ce soit trop bien écrit, je raison.
Voilà, bah, mais c'est très difficile de demander à des papous de ne pas trop bien écrire. Alors je mélange, il y a parmi les faux un vrai. Voilà, on va tous en lire un, je lirai le quatrième. Alors, Jacques Vallée, vous êtes le premier à nous faire la lecture et vous nous direz... Enfin, vous aurez deux tours, hein, donc au premier tour, on prend position, on a le droit de changer d'avis au second. Toute ressemblance serait purement fortuite.
Alors, le début.
Ouais.
Imaginez, chers lecteurs, comment l'on pouvait, à l'époque, franchir la Seine secrètement. Par le pont Saint-Michel, encombré de maisons et d'échoppes, en sautant de toit en toit jusqu'à l'autre rive, par le pont voisin de la cité, par un souterrain sous le fleuve, en retrouvant des bateliers qui attendaient sur le quai du pont Médicis, ou plus audacieux, en traversant à la nage. La fin.
Et tout le monde est pétrifié. On imagine la scène, on est au cinéma.
La fin, sauf qui peut. La molle pousse Margot devant lui dans l'escalier sombre, suivi de Coconas qui se précipite en tirant Henriette effrayée. Le souffle infernal de l'abîme les attire. Ils sautent de marche en marche, se cognant contre les murs, chassés par la peur au front livide qui les aveugle davantage.
On peut applaudir quand même, c'est un très joli texte. Qu'est-ce qui vous a fait rire au moment de la peur au front
Non, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'adjectifs qui arrivent après les voilà, où nous avons escalier sombre, souffle infernal, le troisième, je m'en souviens plus, mais enfin voilà.
Oui, et alors
voilà.
D'accord.
Ça me fait rire.
Bon, c'est bien.
C'est très Dumas, ça.
C'est très Dumas.
Oui, parce que quand même, il ne faut jamais oublier que Dumas était payé à la ligne.
Ouais.
Donc, il fallait qu'il fournisse un certain nombre de pages. Donc, les adjectifs, ça y allait. Et ouais. Alors, les fronts sont toujours livides ou suants.
Voilà.
Ou, bon. La deuxième partie, la fin, est très Dumas. Le début, pas du tout. Je ne vois pas du tout Alexandre Dumas dire « cher lecteur ».
Ah bon ?
Non, parce qu'alors là, ça serait fini pour lui. Au contraire, il s'adresse au lecteur d'une manière totalement générale en disant simplement « vous ». Ou on, mais cher lecteur, je vois pas.
Si j'ai bien compris, ça n'arrive pas au début du livre.
Ça non, c'est vers le milieu, voilà. Donc, le premier tiers.
Si on met cher lecteur au milieu du livre, il y a une espèce d'angoisse qui s'installe. À qui parlait-il avant?
Donc pour le moment, vous n'avez, enfin, vous êtes partagé, Dumas ou pas Dumas, on ne sait pas encore trop, mais non, on a le temps. Hein.
Ah non, c'est pas Dumas.
C'est pas Dumas, non.
Ah, c'est pas Dumas.
Ah
ouais. Ouais. Alors, deuxième lectrice, Jeanne Carillon, ce texte est peut-être d'elle, peut-être d'un autre, peut-être de Dumas.
Début. À l'époque où se passe l'histoire que nous racontons à nos lecteurs, il n'existait, pour passer d'une partie de la ville à l'autre, que 5 ponts, les uns de pierre, les autres de bois. C'était le pont des Meuniers, le pont au Change, le pont Notre-Dame, le petit pont et le pont Saint-Michel. Fin. Marguerite s'élança aussitôt par l'escalier extérieur, attirant Lamolle après elle. Henriette et Coconas, à demi enlacées, s'enfuirent sur leurs traces, tous quatre s'envolant comme s'envolent, au premier bruit indiscret, les oiseaux gracieux qu'on a vus se becqueter sur une branche en fleurs. Ah.
Ça. Voilà, quelqu'un qui imite bien Dumas.
Oui. D'abord, la liste des ponts au début voilà. Est exacte.
Ah.
Alors qu'avant, le pont de la Cité, le pont Médicis, tout ça, bon, attends, personne n'est capable de me le dire. Mais là, les ponts, nous le rappellera, sont apparemment les bons ponts. Et puis, Dumas aime bien faire des listes, comme ça, avec des choses exactes. Donc, c'est possible. La fin, moi, je la vois moins... Elle n'est pas très charnue, quoi.
Parce qu'est-ce que vous entendez par charnue ?
J'entends ce que je veux, et puis... et puis en même temps... non, Dumas, il fait des phrases. Donc là, ça a l'air d'être un moment quand même dramatique. Donc il sait que Patrice Chéreau va arriver bientôt. donc il faut qu'il mette quand même de la matière. Donc c'est un peu froid, je trouve.
En même temps, Eva nous avait dit qu'il y avait un passage un peu cucu dans la fuite dans l'escalier.
Oui.
Et effectivement... C'est cucu. Et alors, c'est plausible. Voilà. Ça pourrait être Alexandre Dumas. Mais on va voir la suite.
Petite option pour Minet.
Et pour moi aussi, hein, oh.
Ouais, d'accord. Troisième lecteur, Lucas Fournier.
En ce temps, cher lecteur, les ponts de Paris étaient peu nombreux, vétustes, et la circulation y était parfois difficile. Il y avait le pont au Change, le pont Marie, le pont des Arts, le pont Notre-Dame, et notre pont Saint-Michel, qui était le moyen le plus rapide et le plus discret pour aller à la cité. La fin. À ce moment, la porte s'ouvrit et donna passage à Catherine de Médicis. Aussitôt, Margot et Lamolle s'échappèrent par l'escalier de l'arrière-boutique dans un bruissement silencieux dont seuls les amoureux sont capables. Henriette et Coconas, dont les mains ne pouvaient se défaire, filèrent à leur suite, le cœur haletant, l'œil humide et la poitrine gonflée.
Vous n'avez pas l'air d'aimer Jean-Bernard Pouille, il y a quelque chose
qui
vous dérange.
C'est pas que j'aime pas, mais j'ai l'air d'un imbécile, parce que j'ai dit quand même que Dumas, théoriquement, il dit jamais cher lecteur, et là, il y en a trois avec cher lecteur. Comment
mais
faire ?
C'est embêtant, hein ?
Là, je trouve ça un peu plat. Ça fait un peu entre Modiano et... Modiano avec la liste des ponts, tout ça. Enfin, bon, je connais bien Paris.
Il y avait la liste des ponts dans le précédent aussi.
Oui,
hein.
Mais c'était plus charnu dans le précédent. Charnu, je vous dirai
ce
après ce que ça veut dire,
d'accord.
Mais c'était plus charnu. Et puis, alors, il y a l'apparition de Marguerite, de Catherine de Médicis.
Oui.
Ouais. Mais je penserais pas du
tout. Il a quand même été dit qu'il s'enfuyait parce
qu'elle
arrivait, hein, la méchante.
Bah oui, mais enfin bon.
Je dis ça comme ça.
Elle peut arriver avant et puis chez moi.
De toute façon, ils sont tous réunis là-dedans, il va bien falloir qu'ils sortent. Ce que je ressens, c'est que le début est très moderne dans cette façon de s'exprimer, dans la façon dont sont fabriquées les phrases.
D'accord.
Donc, je ne dirais pas que ça ressemble à du Dumas.
Mmh.
Et alors, il y a une phrase et formidable à la fin, qui est le bruissement silencieux dont les amoureux sont capables.
Oui.
Et j'ai l'impression que ça a été réécrit par Marguerite Duras, par quelqu'un qui a cette espèce de flamme poétique un peu fatigante.
Oh non, vous êtes injuste.
Oui, je suis injuste, voilà.
D'accord.
Et donc oui, je ne ressens pas la couleur... comment tu dis ?
Charnue.
Voilà, la chair de Dima.
Et puis, il y a quand même un petit détail. Alors, peut-être que je vais me couvrir de ridicule, mais je ne pense pas qu'au moment de la Saint-Barthélemy, enfin, de Catherine de Médicis, il y ait le pont des Arts, qui n'est pas un pont, mais qui est une passerelle, et qui, je pense, a été construite après. Ah, alors, comme Dumas est relativement exact en général, il ne raconte pas trop de conneries, enfin un peu quand même, mais pas beaucoup. Là, quand même, il n'aurait pas mis la passerelle, le pont des Arts, qui me semble un peu moderne dans cette histoire.
Il y avait quand même quelque chose aussi qui était possible pour Dumas dans cette version-là, c'est qu'il raconte les encombrements sur les ponts. Et effectivement, les ponts étaient déjà très encombrés, puisqu'il y avait les commerçants, il y avait etc. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a des notions d'histoire qui a écrit ça.
Bah, vos camarades sont très cultivés, et Dumas aussi. Hein.
Ah oui, Dumas, oui.
Bon, j'ai un quatrième texte en main que je vous lis. Le début. Lecteur, sais-tu bien qu'avant ce pont Saint-Michel qui unit notre île et la rive du Sud, le génie parisien avait assujetti le fleuve? Voici comment. Un pont de pierre construit sous Lutèce, nommé le pont Franc, avec deux passerelles, un bac qui traversait deux fois chaque heure, une flotte de radeaux et de barques que menait un vieillard au regard de charron. Là, c'est le début. La fin. Margot se crut perdue. Coconas avait attrapé le bras charmant d'Henriette, où il sentait battre son cœur. Courage, fuyons! Je sais un escalier secret sous l'armoire au poison, souffla la molle. Hardiment, il entraîna Margot. Et la petite compagnie capricant sur les marches, dans un carnaval effarouché de dentelles et de feutres, se sauva. Alors...
Pourquoi vous applaudissez un texte totalement ridicule? J'ai quand même incroyable. Alors vous applaudissez la performance de Françoise aussi.
Merci.
Le début fait très Dumas quand même. Pour les raisons que j'avais évoquées au début, c'est-à-dire que... Il va à la ligne, quand même. Il en fait des tonnes. Il est capable de raconter pierre par pierre le pont Neuf ou le pont Saint-Michel. Donc,
c'était le pont
parce qu'il était payé à la page. Alors, bon, plus il y a de pages, plus il est riche. En revanche, la deuxième partie, ça serait Dumas qui aurait pris du LSD. Ou, je ne sais pas quoi, ou de la drogue de l'amour, mais ça fait quand même un peu beaucoup, là.
C'est copié. Pas.
Mais c'est très embêtant parce que la première partie, alors, celui qui a fait ça, c'est une ordure.
Qu'est-ce que vous pensez, Minet?
Alors, moi, je trouve pas que ça ressemble à du mal début. Mais peut-être que c'est lui. Hein. Mais je trouve pas que ça. Il y a ce bout de phrase qui m'interpelle. C'est le génie parisien avait assujetti le fleuve.
Ouais.
Voilà. C'est étrange. Pour quelqu'un qui n'est pas prévenu, vous voyez.
Ben, y avait un lecteur avant, quand même.
Oui, voilà.
Donc, on prévient le lecteur.
Voilà. Et alors, à la fin, vous avez cette superbe envolée, le bras charmant d'Henriette, où il sentait battre son cœur. Quelqu'un qui a des notions vagues de l'anatomie. Et nous avons donc aussi une allusion à Claude Zidi, pour un chouillon.
Ah oui, c'est peut-être Zidi qui a plagié. Hein,
oui, il a beaucoup pompé. Voilà. Donc, je pense que c'est la personne qui a écrit ça l'a écrit pour nous aider, nous, experts.
Ouais.
Et de façon à ce qu'on puisse écarter Dumas, au moins, sur un texte.
Alors, vous allez avoir un second tour. Au second tour, on se prononce à chaque lecture, et vous aussi dans la salle. Hein, je vous demanderai, vous ne laissez pas trop influencer par les experts, parce que, bon, c'est ce que sont les experts. Hein. Général, ils se trompent. Enfin, pas toujours aussi.
Pas toujours.
Ils ont parfois des fulgurances.
Oui, c'est arrivé.
Allez, on recommence. Jacques Vallée.
Imaginez, chers lecteurs, comment l'on pouvait, à l'époque, franchir la Seine secrètement. Par le pont Saint-Michel, encombré de maisons et d'échoppes, en sautant de toit en toit jusqu'à l'autre rive, par le pont voisin de la cité, par un souterrain sous le fleuve, en retrouvant des bateliers qui attendaient sur le quai du pont Médicis, ou plus audacieux en traversant à la nage.
C'est une bonne idée, ça, quand même.
La fin, sauf qu'il peut. La molle pousse Margot devant lui dans l'escalier sombre, suivi de Coconas qui se précipite en tirant Henriette effrayée. Le souffle infernal de l'abîme les attire. Ils sautent de marche en marche, se cognant contre les murs, chassés par la peur au front livide qui les aveugle davantage.
C'est beau.
Alors, à l'époque, à mon avis, il n'y avait pas de souterrain sous la scène. Ça, ça me paraît quand même un peu bizarre. Et alors, comme Dumas est toujours extrêmement exact dans ses références, il n'aurait peut-être pas fait cette erreur. La peur au front livide aussi, c'est un peu beaucoup, même pour Dumas, qui généralement il va quand même pas mal, mais là quand même la peur au front livide. Ouais. Moi je crois que c'est un texte écrit par Jeanne Carillon. Il y a quelque chose de féminin dans ce texte.
Ah bon ?
Les échoppes. C'est la seule qui parle.
Les échoppes. Oh là 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 là.
C'est le seul texte qui parle des échoppes sur le pont, j'ai plus rien moi. Donc je pense que c'est Jeanne Carillon.
Bien, et pour vous Patrice Minet ?
Alors il y avait quelque chose qui ne m'avait pas frappé la première fois que j'ai écouté, c'était qui saute de toit en toit.
Ouais.
Voilà, ce sont donc des kangourous. Je ne sais pas ce qu'ils font dans le roman d'Alexandre Dumas. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a évidemment cherché à nous faire rire. Et je pencherai pour... Lucas Fournier.
Alors nous avons un Jeanne Carillon, un Lucas. Alors dans la salle, est-ce que vous reconnaissez Dumas?
Non.
Il n'y en a pas qui disent oui? Non. Est-ce que vous reconnaissez Jeanne Carillon comme Jean-Bernard Puy?
Non.
Est-ce que vous reconnaissez Lucas?
Oui.
Non mais il y en a combien qui se prononcent et combien qui se taisent? Et alors, est-ce que vous reconnaîtriez qui était le dernier, Jacques Vallée ?
Oui.
Bon, c'est les autres, ils reconnaissent qui exactement ? Bon, écoutez, on va voir si vous vous exprimez davantage sur la deuxième lecture. Jeanne Carillon.
À l'époque où se passe l'histoire que nous racontons à nos lecteurs, il n'existait pour passer d'une partie de la ville à l'autre que 5 ponts, les uns de pierre, les autres de bois. C'était le pont des Meuniers, le pont au Change, le pont Notre-Dame, le petit pont et le pont Saint-Michel. Marguerite s'élança aussitôt par l'escalier extérieur, attirant la molle après elle. Henriette et Coconas, à demi enlacés, s'enfuirent sur leurs traces, tous quatre s'envolant comme s'envolent, au premier bruit indiscret, les oiseaux gracieux qu'on a vus se becqueter sur une branche en fleurs.
Voilà, le retour des oiseaux qui était si mignon à la première lecture. Hein. C'est bien, non ?
Ouais. Je crois que ce qui fait du mal, c'est que c'est en même temps chargé, lourd, pas encore assez charnu, mais enfin, chargé et lourd. Et en même temps, on a l'impression que c'est dégraissé. Il n'y a presque rien en trop. Et ça fait du mal, quand même. Je pense que c'est le texte le plus sérieux.
D'accord.
Il y a un côté aussi assez théâtral. Enfin, c'est des images. C'est-à-dire qu'on voit très bien ces personnages dans leurs habits en train de s'envoler, comme il dit, comme des oiseaux dans l'escalier. Alors c'est une image un peu fantastique, un petit peu merveilleuse, ça a un côté romantique, vous voyez. Donc ça a un petit peu le parfum Dumas, oui.
Alors de Dumas ?
De Dumas.
Eh ouais. Et alors, dans la salle, est-ce que vous êtes d'accord pour Dumas ?
Oui !
Ah, pas mal, hein. Vous pensez à quelqu'un d'autre ?
Non.
Vous êtes formidable. Allez, troisième lecture, lecteur Lucas Fournier.
En ce temps, cher lecteur, les ponts de Paris étaient peu nombreux, vétustes, et la circulation y était parfois difficile. Il y avait le pont au Change, le pont Marie, le pont des Arts, le pont Notre-Dame et notre pont Saint-Michel qui était le moyen le plus rapide et le plus discret pour aller à la cité. La fin. À ce moment, la porte s'ouvrit et donna passage à Catherine de Médicis. Aussitôt, Margot et la Molle s'échappèrent par l'escalier de l'arrière-boutique dans un bruissement silencieux dont seuls les amoureux sont capables. Henriette et Coconas, dont les mains ne pouvaient se défaire, filèrent à leur suite, le cœur haletant, l'œil humide et la poitrine gonflée.
Ben, on sent toute l'émotion des amoureux. Moi, je trouve que c'est très beau. Je suis la seule, mais bon.
Bah oui, c'est... Il n'y a que vous qui ayez la poitrine
c'est
gonflée.
C'est pas grave. Ouais, elle n'est pas terrible, celle-là, Lucas.
Oh, si.
Alors, Patrice oui. Minet, exprimez-vous.
La personne qui a écrit ça a eu des soucis à cause des encombrements à Paris. Donc, elle se venge un peu en se servant d'Alexandre Dumas. Il y a un côté pragmatique, le moyen le plus facile pour se déplacer, pour éviter les encombrements, les voies sur berge, etc. En plus, je pense que c'est une femme qui a des gros soucis en voiture.
Ah, mais là, mais...
Voilà, vous êtes d'accord. Donc, je dirais Jeanne.
Elle ne sait pas faire un créneau, c'est ça ?
Je ne l'ai pas dit.
Alors, un Jeanne Carillon pour Patrice Minet et pour Jean-Bernard Pouille.
Ben, je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais simplement, moi, je pense que c'est Jacques Vallée qui a écrit ça.
Oui, pourquoi ?
Ça ne peut pas être quelqu'un qui a des soucis en voiture. Il n'a pas le permis, donc le problème ne se pose pas.
Merci.
Mais... il y a quelque chose qui est très connaisseur, et en même temps, il se laisse un peu aller en croyant que Dumas écrit comme un pied, et il a raison, d'ailleurs. Parce que La porte s'ouvrit et Catherine de Médicis a paru, ça, alors, quand même, enfin bref.
Bah, ça fait
je parle
image.
Pas de la poitrine gonflée, parce que j'ai déjà eu... Donc je pense que c'est Jacques Vallée, parce que c'est un bon connaisseur du...
Donc nous avons... Un Jeanne Carillon pour Patrice Minet, un Jacques Vallée pour Jean-Bernard Pouille. Est-ce que vous votez pour Dumas ?
Non.
Est-ce que vous votez pour Jacques Vallée ?
Oui.
Un petit peu comme Jean-Bernard Pouille ? C'est tentant de suivre Jean-Bernard.
Non.
Est-ce que vous votez pour Jeanne Carillon ?
Oui.
Est-ce qu'il y en a qui sont favorables à Lucas Fournier ?
Oui.
C'est toujours les mêmes qui disent
c'est
oui.
C'est toujours les mêmes qui répondent. Et les autres, ils pensent à qui ? À Stendhal ? Bon, je vous lis la dernière. C'est une phrase. Alors, début. Lecteur, sais-tu bien que, avant ce pont Saint-Michel qui unit notre île et la rive du Sud, le génie parisien avait assujetti le fleuve ? Voici comment. Un pont de pierre construit sous Lutèce, nommé le pont Franc, avec deux passerelles, un bac qui traversait deux fois chaque heure, une flotte de radeaux et de barques que menait un vieillard au regard de charron. Voilà pour le début. La fin, Margot se crut perdue. Coconas avait attrapé le bras charmant d'Henriette, où il sentait battre son cœur. Oh, c'est mignon. J'ai le mien qui bat sur mon bras. Courage, fuyons! Je sais un escalier secret sous l'armoire au poison, souffla la molle. Hardiment, il entraîna Margot et la petite compagnie capricant sur les marches. Dans un carnaval effarouché de dentelles et de feutres, se sauva. Ah, c'est alors, bien, hein, c'est de qui pour vous? Ah, si on vous demandait votre avis avant que les experts ne parlent, est-ce que certains votent pour Dumas? Lucas? Lucas pour beaucoup, hein. Il y en a qui font non. Ils votent pour Dumas, les autres. Ouais. Pour Jacques Vallée. Pour Jeanne Carillon.
Oui.
Bon, alors il y a beaucoup, beaucoup de Lucas Fournier quand même. Puis toujours les abstentionnistes. Hein. Et ça, malheureusement, on y aura droit. Hein.
Bon, il y a un mot quand même, c'est Capricorn.
Ah, c'est joli, hein.
Et ça, c'est comme je les vois chèvres. Je vois que Lucas, qui est comme, vous savez, de la Malou les Bains, donc il y a des chèvres partout sous les chênes verts. Donc ça fait penser pour lui. Et puis, ce qui est étrange quand même, c'est que c'est le deuxième texte où on parle de génie parisien. Et l'autre, je ne sais plus dans lequel c'était. Donc, je pense que c'est dans celui que j'ai attribué à Dumas. Donc, Lucas est pas loin d'Alexandre Dumas. Encore un petit effort, Lucas. Et puis... Le deuxième argument, qui n'est pas foncièrement un argument littéraire, mais qui est un argument un peu lié à l'habitude, c'est que les deux textes fournis sont plus longs que les autres. Ça, c'est typique de Dumas.
De Lucas.
C'est typique de Dumas, et puis c'est typique de Lucas. Tu lui montres 10 lignes, il te fait 3 pages. Donc,
Non, mais il n'est pas payé à la ligne, je précise. Alors, un Lucas Fournier pour Jean-Bernard Pouy, qui est d'accord avec la majorité de la salle. Pour Patrice Minet, alors je crois que vous avez déjà attribué Lucas, donc...
Je pense à Jacques Vallée parce qu'il a beaucoup de connaissances, il en profite, qu'il écrit pour nous en faire profiter. Et c'est un texte où il y a vraiment beaucoup de termes, le génie parisien, bien sûr.
Oui.
Et puis, du vocabulaire, assujetti le fleuve, que je t'ai remarqué tout à l'heure, des choses comme ça, ça me plaît bien. Il sentait battre son cœur. Alors ça, c'est... Comment dire, c'est désarçonnant sous la plume de Jacques Vallée, mais comme le reste lui correspond, voilà, il a eu une petite faiblesse là. Voilà.
Alors, un Jacques Vallée, un Lucas Fournier. Bon, ben, on va décider maintenant de répondre à la première question, l'interrogation majeure. Qui a en main le texte d'Alexandre Dumas?
C'est moi.
C'est Jeanne Carillon. Hey! Jean-Bernard Pouy et Patrice Minet l'ont identifié, et certains dans la salle.
Bravo.
Ah, bravo, bravo. Oh. On va peut-être réécouter juste les fins, parce qu'elles sont plus charnues, comme dirait Jean-Bernard Pouy.
Marguerite s'élança aussitôt par l'escalier extérieur, attirant Lamolle après elle. Henriette et Coconas, à demi enlacées, s'enfuirent sur leurs traces. Tous quatre s'envolant comme s'envolent au premier bruit indiscret les oiseaux gracieux qu'on a vus se becqueter sur une branche en fleurs.
Voilà, c'est Dumas, les oiseaux gracieux. Bravo.
Oh ben c'est bien la première fois.
Bravo. Donc, mais non, soyez pas modeste. Jacques Vallée, vous voulez bien nous relire juste la fin du texte que vous aviez en main?
Sauf qui peut. Lamolle pousse Margot devant lui dans l'escalier sombre, suivi de Coconas qui se précipite en tirant Henriette effrayée. Le souffle infernal de l'abîme les attire. Ils sautent de marche en marche, se cognant contre les murs, chassés par la peur au front livide qui les aveugle davantage.
Alors, vous avez attribué ça pour Jean-Bernard Pouy, c'était du Jeanne Carillon à cause du côté fringue, disons les choses clairement. Et pour Patrice Minet, c'était du Lucas Fournier. De qui est Jacques Vallée?
C'est de Jacques Vallée.
Ah.
C'est mon côté féminin, les échoppes.
Bon, c'est un petit point de chute chacun, mais c'est pas bien grave. Hein. Lucas Fournier, relisez-nous la fin que vous avez sous les yeux.
À ce moment, la porte s'ouvrit et donna passage à Catherine de Médicis. Aussitôt, Margot et Lamolle s'échappèrent par l'escalier de l'arrière-boutique dans un bruissement silencieux dont seuls les amoureux sont capables. Henriette et Coconas, dont les mains ne pouvaient se défaire, filèrent à leur suite, le cœur haletant, l'œil humide et la poitrine gonflée.
C'est de qui?
Eh bien, c'est de Jeanne.
Hey. Hey. Patrice Minet, bravo, vous l'avez dit.
Ah oui, j'ai dit. Mais je dis n'importe quoi.
Absolument. Bon, un petit point de chute pour Jean-Bernard Pouy, mais c'est pas grave. L'important, c'était quand même d'identifier Alexandre Dumas. Et alors moi, j'ai lu le texte magnifique de Lucas Fournier. Et j'avoue que quand je l'ai découvert, bon, ça s'est passé chez moi, ils ont écrit, ils m'ont donné leur texte manuscrit, et je les ai tapés. Et je me suis dit, tiens, pour la fin, on dirait du Guitry. Et quand il écrit ou quand il dit du Guitry, Lucas Fournier est toujours formidable. Vous voulez bien le lire avec le ton de Guitry? Vous allez voir, ça marche très très bien.
Margot se crut perdue. Coconas avait attrapé le bras charmant d'Henriette où il sentait battre son cœur. Courage, fuyons. Je sais un escalier secret sous l'armoire au poison, souffla Lamolle. Hardiment, il entraîna Margot. Et la petite compagnie, capricant sur les marches dans un carnaval effarouché de dentelles et de feutres, se sauva.
C'est beau. Qu'est-ce que vous avez pensé des faussaires et des experts, Eva Almassi?
Moi, j'ai trouvé que les faussaires avaient bien du courage de se jeter dans la Seine et ils ont traversé cet exercice à la nage. Donc, il y avait bien le mot audace prononcé par... mon voisin de gauche, que j'appliquerai aux faussaires. Quant aux experts, je les ai trouvés très perspicaces quant à Dumas, parce qu'ils ont pointé bien les détails contemporains qui ne pouvaient pas être de lui. Mais quand même... Et puis le cher lecteur aussi, parce que... c'est un feuilletoniste. Donc chaque chapitre est nouveau pour les lecteurs. Donc l'argument tombait un petit peu à côté. Mais voilà. Voilà, c'était très bien.
Ben oui, très brillant. Bravo à tous, à vous aussi. Vous écoutez France Culture, des papous entre deux ponts. En public au studio 105 de la Maison de la Radio. Et maintenant, un morceau de piano par Gabriel Gothard, Black Button de Erwin Schulhoff. C'est le retour de nos poètes avec leurs bouts rimés. Ça s'est passé devant vous. Ils vont prendre place. Ça s'est sûrement très, très bien passé. Alors, je vais rappeler les mots que vous aviez imposés avec l'aide des papous. Candidat, Dalida, hurluberlu, poilu, pirouette, mouette, rapine, copine, chauve-souris, mi-souris, adage, bagage, Marcel, Crécel, balourd, velours, paupières, Jean-Pierre, cauchemar, calamar. C'était des bons mots, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Sophie, de ces mots?
Oui, c'est des bons mots.
Et est-ce que les bons mots font...
C'est plus facile quand même de les donner que de les avoir. Hein.
Est-ce que les bons mots font les bons poèmes?
J'espère.
C'était facile. Alors, je précise quand même que Sophie est très jeune papou. Elle est là depuis un an, 14 mois peut-être, et c'est la première fois qu'elle écrit comme ça sur place. Alors c'est une pratique en studio, mais entre nous, là, devant vous, vous êtes quand même très très nombreux, merci d'être venus. C'est beaucoup plus difficile. Vous avez peur ?
Non, ça va. Le pire est derrière moi.
Alors, il y a forcément un mot qui a attiré votre attention pour écrire l'histoire.
Le mot qui m'a inspiré, c'est chauve-souris.
Ouais.
C'est quel mot ?
C'est un très bon mot. Est-ce qu'il il appartient au titre que vous avez donné au poème ?
Non, le titre c'est Fable bretonne.
Ouais. Et alors vous avez fait le choix de
l'auto. Non, j'ai fait alexandrin en rime alternée.
Très bien. Non, mais c'est une très bonne idée. Ça donne toujours des choses parfaites. Allez, on vous écoute.
Un jour, dans une forêt, une chauve-souris fut sortie du sommeil par un huluberlu, un être triste et doux, qui à demi sourit. Et lui dit, écoutez-moi, petit être poilu, depuis Quimper et Nantes, j'entendais cet adage, qu'en soprano, tu changes les pires voix de Crécel. J'amène avec moi, survolant mes bagages, ma chère, chère amie qui s'appelle Marcel. Survolant, oui, ma bien-aimée copine, celle que tu dois aider. Ma foi, c'est une mouette. Sa voix est atroce, sa rape, ou plutôt sa rapine. Guéris-la, s'il te plaît, d'un mot, d'une pirouette. La chauve-souris répond. Si c'était Dalida, jeune, jolie, le poil doux et un ton de velours, serais-tu heureux ? Oui. Alors le candidat tendit à la sorcière la mouette au champ balourd. La chauve-souris ferma trois fois ses paupillères.
Non, mais il y a le nombre de pieds, hein.
Il y a le nombre de paupières aussi, c'est parfait.
Mais cette médecine devint un cauchemar. La mouette ensorcelée du dénommé Jean-Pierre chantait comme une barrique. C'était un calamar.
Bien. Les vers sont très réguliers et l'histoire intéressante. Donc c'est parfait, bravo Sophie. Alors Hervé Le Tellier, bah, vous passez en second.
Oui.
Non, en deuxième d'ailleurs, parce que nous aurons un troisième.
Allez savoir, je suis peut-être en second.
Vous, le mot, c'est chauve-souris aussi qui vous attire ou pas?
Alors, je pense que c'est Dalida qui m'a inspiré.
Oui.
Donc j'ai fait un premier texte avec Dalida comme source d'inspiration.
Oui, et un titre?
Chanter comme Dalida.
Oui, vous n'allez pas essayer. Hein.
Non. Non, mais au jeu chanter comme Dalida, naguère, je fus candidat.
Ah
hein. Comme je chantais comme une crécelle, je m'entraînais avec Marcel. Marcel, c'est ma meilleure copine. Elle aime le rap et la rapine. Elle m'a dit, crie comme une mouette et sur scène fais une pirouette. Et aussi, en bleu, les paupières. Pour les bleus, demande à Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est mon homme. Un balourd. Et quand il cogne, c'est pas du velours. Souvent, je pense à faire mes bagages, mais vous connaissez l'adage, l'amour c'est comme une chauve-souris, c'est ni oiseau et mi-souris. Bref, je voulais chanter Calamar. C'est une chanson pas très connue de Dalida, ça fait comme ça. Da-da-di-da-da-da, calamar, calamar. Mais ce fut un vrai cauchemar. On m'a traité d'hurluberlu. Je m'en fous, de toute façon, j'étais trop poilu.
Et vous avez quelque chose à ajouter, Hervé?
J'ai une fable.
En plus?
C'est-à-dire que comme je trouvais ça assez minable...
Vous voulez humilier les autres, alors?
Oui. Non, il tient la couverture, là. C'est pas possible.
Allez-y, vous l'avez écrit.
Non, mais la fable n'est pas bien, non.
Ah bon?
Non, c'est... Tant de coquetterie, c'est pas beau. Bon, ça s'appelle La mouette et la chauve-souris.
Oui.
Commençons par une pirouette. Dans cette fable, pas de mouette. Elle était timide et l'adage dit « Trop timide, fais tes bagages ». Bon, à sa place, voici sa copine qui vit au phare de la rapine. C'est une jolie chauve-souris, originaire du Missouri, amoureuse d'un calamar. Mais cet amour est un cauchemar. La chauve-souris s'appelle Marcel. Elle crie « Je t'aime » comme une crécelle au calamar nommé Jean-Pierre, qui a de très jolies paupières. Mais cette affreuse hurluberlu lui préfère une pieuvre poilue qui a l'accent de Dalida, on a vu meilleur candidat. Parfois le destin, c'est pas du velours, surtout quand on aime à balourd. L'avantage, c'est que ça va vite.
Il y en a une troisième, non,
non.
Alors, dessus, bravo Hervé. Alors, Jacques Jouet, vous, je vous avais imposé d'écrire une chanson.
Merci.
Vous avez dit que vous aviez choisi la chanson « Des vieux amants » de Jacques Brel. Une chanson dramatique, sombre, mais avec un brin d'espoir quand même. Hein,
aucun.
Parce qu'ils sont toujours ensemble. Non, aucun.
Dans ma chanson, il n'y a aucun espoir. Non.
Bon, alors, dites-moi, là, vous avez donc écrit d'autres paroles. Quel est le mot qui vous a inspiré?
Non, je suis parti sur les personnages. Donc la chanson s'intitule « Chanson pour Jean-Pierre »
Oui.
Par Marcel.
D'accord. Alors, allez au micro-champ. On vous soutient. Au piano, Gabriel Godard.
T'as raison de fermer les paupières, comme si t'étais une chauve-souris. C'est terrible de s'appeler Jean-Pierre et d'être né dans le Missouri. Depuis que je t'aime, c'est un cauchemar. J'aurais dû rester ta copine sans cuisiner des calamars. Pour un pareil hurluberlu qui d'un peu partout est poilu et qui ne vit que de rapine. Mon grand balourd, on n'a jamais vu un pareil balourd dans ton costume et ton slip de velours. Je te sens pas, mon vieux, je te sens pas. J'ai plus envie de tes pirouettes et des chansons de Dalida que tu chantes en gros comme une mouette ou comme un mauvais candidat. Tu pourrais pas faire tes bagages, ne plus chanter comme une crécelle, comme il est dit dans un adage. Tu pourrais pas coudre tes paupières, arrêter de t'appeler Jean-Pierre et laisser tranquille ta Marcelle. Mon grand balourd, on n'a jamais vu un pareil balourd dans ton costume et ton slip de velours. Je te sens pas, mon vieux, je te sens pas.
Qui dit Hervé, une autre, une autre. Les papous entre deux ponts, fin de la première partie. Une émission proposée par Françoise Tressard, équipe technique et de réalisation Anne de Pelchin, Bernard Laniel, Romain Lenoir, Julien Calvas, attaché de production Marie Dalquier. Une émission à podcaster sur franceculture.fr. Et n'oubliez pas de faire l'expérience du son binaural en branchant un casque pour l'écoute. On se retrouve dimanche à 12h50 pour la deuxième partie des Papous entre deux ponts. Au revoir, passez un très bel après-midi sur France Culture.
Quoi, quoi ?